Cette Europe malade du libéralisme, l'urgence de désobéir, c'est le titre d'une récente publication d'Attac et de la Fondation Copernic, parue aux éditions des Liens qui libèrent. Pour ces deux organisations, il est l'heure d'une rupture avec l'ultralibéralisme qui guide les politiques européennes. Il faut aussi revoir l'organisation des institutions, décrite comme un fédéralisme autoritaire. Quant aux traités, qui ont acquis un statut de droit autonome et subnational, il faut, pour réintroduire en Europe l'idée d'un progrès social, leur désobéir. On en discute avec Pierre Calfa, auteur et coordinateur de cet ouvrage. Il est aussi économiste, coprésident de la Fondation Copernic et membre du conseil scientifique d'Attac.
L'Union européenne est un ordre juridique tout à fait particulier, dans lequel le droit de la concurrence est un droit de nature quasi constitutionnelle, dans lequel les normes économiques et financières sont des normes qui ne sont pas discutées politiquement ni démocratiquement. Je vais vous donner un exemple en comparant par exemple avec l'ordre juridique en France. En France, vous avez le droit de la concurrence d'un côté, la liberté d'entreprendre, et puis de l'autre, vous avez le droit de grève. Bon. Ces deux droits sont sur le même statut dans la hiérarchie juridique des normes. Et il peut avoir, et il y a d'ailleurs souvent des conflits entre ces deux droits. Quand il y a conflit entre ces deux droits, il y a une cour de justice, qui est la cour de cassation, qui tranche. Elle tranche certes en fonction de l'état d'opinion, des rapports de force, mais aussi du fait que ces deux droits ont la même valeur juridique dans la hiérarchie des normes. C'est pas du tout le cas en Europe, dans l'Union européenne. Dans l'Union européenne, c'est le droit de la concurrence, la liberté du commerce, la liberté d'entreprendre qui prime sur tous les autres droits, et surtout les droits sociaux en général, qui relèvent d'ailleurs du domaine national et pas du domaine européen. Et donc, comme le droit européen prime sur le droit national, c'est le droit de la concurrence, la liberté du commerce qui l'emporte sur tout le reste. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que le traité de Maastricht et les traités suivants, notamment le traité d'Amsterdam, impose des normes financières, budgétaires, hein, ce qu'on appelle les critères de Maastricht ou les critères du pacte de stabilité. 3% maximum du PIB de déficit budgétaire, 60% du PIB en matière de dette publique, par exemple. Bon. Ces normes n'ont aucune valeur économique. Hein. Pourquoi 3 et pas 2,5 ou 3 et pas 3,5 bon. C'est-à-dire, c'est des normes arbitraires. Or, l'application de ces normes et ces normes elles-mêmes ne sont jamais décidées, ne sont jamais discutées démocratiquement. Donc les politiques économiques et sociales qui sont menées au nom de ces normes-là échappent à tout débat démocratique, à toute décision citoyenne. Qui plus est, après la crise de 2008 et de 2009, toute une série de directives et de règlements, ce qu'on appelle dans le jargon européen les CIPAC et les TUPAC, qui sont des directives et des règlements adoptés avec l'accord des États. Hein. Aucune directive européenne ne peut être adoptée si les États ne sont pas d'accord. Hein, bon. Donc ces directives plus un nouveau traité qu'on appelle le pacte budgétaire, bon, et un traité c'est quelque chose qui est rédigé par les gouvernements, hein, qui est ratifié par les États, donc les gouvernements nationaux en sont les principaux responsables, ont encore verrouillé la situation hein, par toute une série de mesures institutionnelles bon, qui font qu'aujourd'hui, on est en fait dans une structure globale qui est totalement antidémocratique et qu'on peut appeler un fédéralisme autoritaire. C'est-à-dire qu'on a des mesures prises au niveau européen qui ne sont jamais débattues politiquement, décidées démocratiquement et qui sont imposées.
Dire que l'Europe est malade, ça voudrait dire qu'elle a été atteinte tardivement par le mal libéral, qu'elle n'a pas toujours été libérale ?
L'Europe, depuis le départ, est une Europe capitaliste. Ça, c'est clair. Mais entre le capitalisme néolibéral que nous connaissons aujourd'hui et le capitalisme qui a été mis en place après la Seconde Guerre mondiale, ce que les économistes appellent le capitalisme fordiste, il y a des différences fondamentales. Le capitalisme fordiste était basé sur un compromis social hein, qui aboutissait à un partage des gains de productivité entre les salariés d'un côté et les directions d'entreprise de l'autre. Et les perdants de ce compromis social étaient les rentiers, les actionnaires. À partir du milieu des années 80, vous avez un changement radical de situation sur la base de défaites ouvrières considérables dans tous les pays européens bon, et qui aboutit à un nouveau mode de gestion des entreprises dans lequel la création de valeur pour l'actionnaire devient la priorité unique bon, du fonctionnement des entreprises. Et l'emploi, les salaires deviennent simplement des valeurs d'ajustement de cet objectif-là. La construction européenne s'adapte à cet objectif-là à partir de, d'un traité, hein, c'est le grand tournant de la construction européenne, c'est 1986, hein, c'est l'acte unique qui crée un marché unifié des capitaux, des marchandises et des services à l'échelle européenne. Et c'est à partir de ce moment-là que le droit de la concurrence devient un véritable droit de nature constitutionnelle qui surdétermine en fait le fonctionnement de l'ensemble de la construction européenne. Ce tournant, il faut le signaler, avait été précédé par une vague néolibérale dans la plupart des pays européens. C'est l'élection de Thatcher en 79 en Grande-Bretagne, mais c'est en France aussi ce qu'on a appelé en 83 le tournant de la rigueur avec la déréglementation financière menée par Bérégovoy et Fabius, hein, à l'époque. Bon. Dans la foulée, vous avez ce qu'on a appelé la mondialisation néolibérale, la globalisation du capital. Et on passe d'un capitalisme qui était auparavant très peu internationalisé, à tel point que dans les années 60, hein, le volume du commerce mondial est équivalent à ce qu'il était en 1913, alors que la richesse produite à l'échelle internationale avait été incroyablement plus importante. Hein. Donc ça montre qu'on avait à l'époque, dans les années 60, un capitalisme qui était encore faiblement internationalisé, qui était centré sur le territoire national. Tout change en fait dans les années 70-80, et c'est ce changement qui enregistre à l'échelle européenne avec un véritable tournant, le tournant de l'acte unique de 1986.
Alors dans ce contexte, est-ce que l'alternative d'une Europe sociale est encore possible? Est-ce qu'on peut envisager de voir apparaître un autre modèle, de reconstruire l'Europe sur des bases plus saines en vue de politiques qui seraient davantage progressistes?
Il faut de toute façon une rupture avec l'Europe telle qu'elle se construit actuellement. Le problème, c'est comment cette rupture peut advenir. C'est ça la question stratégique, je dirais. Bon. Il y a aujourd'hui trois leviers possibles. Le premier levier, c'est le Parlement européen. Il va y avoir des élections au Parlement européen. Bon, le Parlement européen n'est pas un Parlement croupion, hein, contrairement à ce que souvent on entend dire, c'est totalement faux. Quand on regarde les pouvoirs du Parlement européen et les pouvoirs réels du Parlement français, le plus croupion n'est peut-être pas celui qu'on croit. Hein. Le Parlement européen a des pouvoirs de blocage, des directives. Aucune directive européenne ne peut être adoptée s'il n'y a pas l'accord du Parlement européen. Il a donc un pouvoir de négociation, un pouvoir de nuisance par rapport à la Commission européenne et par rapport au gouvernement. Mais il n'a pas la possibilité de réorienter en profondeur la construction européenne, tout simplement parce que il n'a pas son mot à dire sur les traités européens qui relèvent exclusivement des gouvernements et des États. Or, c'est ces traités-là qui sont un problème majeur. Bon. Le deuxième levier, c'est le levier des mobilisations sociales et citoyennes européennes. Or, aujourd'hui, elles sont de faible ampleur. Elles existent, elles réussissent à peser quelquefois sur tel ou tel sujet, mais elles n'ont pas encore une puissance suffisante pour permettre de réorienter en profondeur, de reconstruire la construction européenne. Le troisième levier, c'est la rupture au niveau national. C'est-à-dire le fait qu'un gouvernement de gauche, progressiste, voulant rompre avec le néolibéralisme, arrive au pouvoir dans un ou plusieurs pays et essaye de mener une politique progressiste. Bon, bon il faut d'abord que un tel gouvernement arrive au pouvoir. Mais c'est pas fait, hein, on le voit, on en est encore loin, hein, que ce soit en France ou en Espagne par exemple, ou même en Grande-Bretagne. Hein. Prenons cette hypothèse-là, hein, qu'un gouvernement de gauche progressiste, voulant rompre avec le néolibéralisme, arrive au pouvoir, qu'est-ce qu'il fait? Là, il faut tirer les leçons de ce qui est arrivé en Grèce avec le gouvernement Syriza, qui a été étranglé par l'Union européenne, qui a été étranglé financièrement par l'Union européenne et qui a été in fine obligé de capituler. Qu'est-ce que n'a pas fait le gouvernement Syriza? C'est qu'il a essayé de négocier à froid avec l'Union européenne, ce qu'on appelle l'Eurogroupe, c'est-à-dire ce qui regroupe les ministres des finances de la zone euro et avec la Banque centrale européenne. Évidemment, dans une négociation à froid sans rapport de force, bon, la Grèce s'est retrouvée toute seule et s'est retrouvée étranglée financièrement. Il faut tirer les leçons de cette affaire-là. Et tirer les leçons de cette affaire, ça veut dire qu'il faudra qu'un gouvernement de gauche qui arrive au pouvoir prenne des mesures unilatérales, qui sont des mesures unilatérales qui permettent de se protéger par rapport à l'étranglement financier qui risque fortement d'arriver. Parce que les classes dirigeantes européennes ne laisseront pas faire notamment dans un pays important de l'Union européenne, ou même dans un autre, ne laisseront pas faire une rupture tranquille avec le néolibéralisme. Donc il faudra prendre des mesures unilatérales, par exemple un contrôle des capitaux, pour empêcher une fuite des capitaux. Par exemple, une réforme fiscale majeure, de redonner des marges de manœuvre à la puissance publique et rétablir une équité fiscale. Par exemple, reprendre contrôle de la finance, avoir un contrôle public et social des banques. Bon, toute une série de mesures de ce type-là, qui sont à la fois des mesures de rupture avec le néolibéralisme et qui permettent de nous protéger par rapport à l'étranglement financier.
L'urgence de désobéir, c'est le sous-titre du livre. D'après vous, c'est plus judicieux de préférer la désobéissance plutôt qu'une sortie de l'euro ? De l'euro ou de l'Union européenne ?
Oui, mais sortir de l'euro, de fait, signifie sortir de l'Union européenne. Hein. Ça revient au même. Puisque le noyau dur de l'Union européenne, c'est la zone euro. Et en théorie, tous les pays qui sont dans l'Union européenne sont susceptibles un jour de rentrer dans la zone euro. La sortie de la zone euro présente des inconvénients. D'abord, ses bénéfices sont très aléatoires. Elle a des inconvénients économiques très importants. Je vous en cite un, par exemple, qui est le fait qu'il y aurait effectivement, probablement, une spéculation sur la nouvelle monnaie. Comme l'euro s'appuie, s'adosse à une zone économique très importante, et que c'est maintenant une monnaie importante à l'échelle internationale, il n'y a pas eu de spéculation financière sur l'euro. Alors qu'avant la création de l'euro, il y a eu des spéculations financières sur le franc, sur la livre, sur la lire, etc. La création de l'euro a empêché les spéculations financières sur la monnaie. Donc sortir de l'euro nous mettrait dans cette position-là, dans la position d'être soumis à des spéculations financières sur la nouvelle monnaie, ce d'autant plus dans le cas de la France que la France est en déficit commercial. Elle est très sensible à la spéculation financière sur sa monnaie. Le second problème, c'est le fait que la dévaluation, parce qu'il y aurait une dévaluation si la France sort de l'euro, la dévaluation aurait des conséquences en matière d'augmentation des prix de nos importations, notamment des prix de l'énergie, ce qui signifierait un surcroît d'inflation. De ce point de vue-là, un appauvrissement global de la population. Quand il y a inflation, vous avez un appauvrissement global de la population. Il y aurait des bénéfices économiques qui seraient des bénéfices aléatoires pour des inconvénients économiques importants. Bon. Mais le fond de l'affaire sur la sortie de l'euro, c'est que c'est le signe politique que nous donnons. La question est de savoir si nous voulons ou pas construire un destin commun de tous les peuples d'Europe. Ou si nous pensons que nous allons nous en sortir tout seuls contre les autres. Or, en sortant de l'euro et en menant une politique de dévaluation compétitive les autres pays européens, ce que nous mettons en scène, c'est que, en fait, nous voulons exporter nos problèmes dans les autres pays, avec toutes les mesures de rétorsion que ces pays pourront prendre, au lieu de chercher de mettre en place une politique coopérative. C'est-à-dire que, en fait, aujourd'hui, l'Union européenne est une Union européenne non coopérative. Elle est basée sur le dumping social, le dumping fiscal, la concurrence de tous contre tous. Et à cela, au lieu d'avoir plus de solidarité, eh bien, plus de coopération, bon, en sortant de l'euro, nous rajouterons de la concurrence à la concurrence. Et donc ça, nous pensons que politiquement, pour un projet de gauche, ce n'est pas acceptable. Alors maintenant, désobéir à l'Union européenne, rompre avec les traités, cela peut amener, cela amènera, inévitablement un affrontement avec les institutions européennes. Qu'en sera-t-il de cet affrontement ? Personne ne peut le dire. Est-ce que nous resterons isolés ? Est-ce que le pays qui rompra avec le néolibéralisme restera isolé ? Est-ce qu'il y aura un effet contagion ? Est-ce qu'il sera rejoint par d'autres pays rebelles ? Personne ne peut le savoir. Donc les choses sont ouvertes. Il est possible qu'à un moment donné, si le pays reste isolé, les autres pays décident de l'exclure de la zone euro. Si le choix, c'est entre capituler et sortir de l'euro, il faudra évidemment sortir de l'euro. Parce que la capitulation devant le néolibéralisme, devant les exigences qui sont les exigences de la Banque Centrale Européenne ou des institutions européennes, sont inacceptables. Bon. Donc on ne peut pas capituler devant ces exigences, parce que capituler dans ce cadre-là, c'est appliquer le programme de ses adversaires. Bon. Donc la sortie de l'euro peut être le résultat d'une bataille politique, si on est expulsé de la zone euro, mais ce n'est pas un préalable pour rompre avec le néolibéralisme.
Précisément, désobéir, c'est désobéir à quoi ? Aux règles budgétaires
c'est désobéir à toutes les dispositions qui, dans les traités ou dans les directives européennes, nous empêchent de mener une politique de rupture avec le néolibéralisme. Par exemple, vous avez donné tout à l'heure l'exemple du contrôle des capitaux. Si on ne fait pas un contrôle des capitaux, on commence à être étranglé financièrement. Donc il faudra faire un contrôle des capitaux. Faire un contrôle des capitaux, c'est contraire à la disposition des traités européens qui dit que la liberté de circulation des capitaux est considérée comme une liberté fondamentale. Donc ça veut dire qu'on dit, aujourd'hui, nous n'appliquerons pas ces dispositions des traités. C'est-à-dire que nous engageons un bras de fer avec les institutions européennes en disant, nous sommes pour la construction européenne, parce que nous pensons qu'il y a un destin commun des peuples d'Europe aujourd'hui, et que nous avons besoin d'Europe pour peser dans le monde, pour mener des négociations à l'échelle internationale, pour appliquer des politiques européennes, qui sont des politiques européennes progressistes. Eh bien, il y a besoin de l'Europe pour lutter contre le dumping social et contre le dumping fiscal. Il faut un espace de solidarité à l'échelle européenne, donc on a besoin d'Europe, mais d'une autre construction européenne. Nous nous adressons à nos partenaires européens pour dire, nous voulons renégocier les traités, nous commençons à appliquer chez nous les mesures qu'il faudrait appliquer à l'ensemble de l'échelle européenne.
Actuellement, on donne dans les sondages La République En Marche et le Rassemblement National en tête. Est-ce que c'est de bon augure pour voir émerger cette alternative européenne ?
Non, c'est de très mauvais augure, parce que le Rassemblement National prône en fait une politique nationaliste de repli national, xénophobe, qui est mortifère, qui nous a mené à la catastrophe à d'autres époques historiques. Et quant à La République En Marche, il professe un néolibéralisme assumé qui existe déjà à l'échelle européenne. C'est les deux faces de la même médaille. Et d'ailleurs, ces deux formations ont intérêt à mettre en scène leurs propres affrontements pour essayer d'évacuer le fait qu'il existe une autre alternative qu'une alternative de gauche progressiste.
Pierre Calfa, économiste, coprésident de la Fondation Copernic, membre du conseil scientifique d'Attaque, auteur et coordinateur de l'ouvrage collectif « Cette Europe malade du libéralisme, l'urgence de désobéir » paru en 2019 aux éditions des Liens qui libèrent.